Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, voilà une petite interview justement avant de rencontrer dans quelques minutes notre ami Xangor Choukas, le patron de BNP Paribas au Property Management Europe. On va parler de flexibilité énergétique et les enjeux de la flexibilité énergétique. On a réuni deux professionnels, dont un que je connais bien, puisqu'il a carrément son rond de serviette gravé chez Radio Imo. Bonjour Emmanuel François, comment ça va ?
Très bien.
Bien.
Ravi d'être ici pour cette édition 2024.
Toujours aussi dynamique. Hein ?
Exact.
Ah, il changera jamais. Prophète des temps modernes. Voilà. J'ai souvent dit. Hein, donc, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas dit. Merci Emmanuel d'être avec nous. Laurent Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Decebel.
D-E-C-E-B-E-L. Donc, nous fournissons des bornes de charge bidirectionnelles de véhicules électriques et de manière générale des solutions pour le pilotage de la flexibilité dans les bâtiments.
Pilotage de la flexibilité énergétique, c'est un enjeu majeur. Vous nous expliquez en deux mots, ou peut-être Emmanuel pour démarrer.
Je peux faire juste une introduction. Avec l'électrification des usages, on a une croissance exponentielle de la consommation, de la consommation électrique en France, en Europe aussi, dans le monde. Trois leviers, les data centers, la mobilité électrique et la conversion de tout ce qui est production de chauffage avec des pompes à chaleur. Donc gaz, fuel, vers les pompes à chaleur. Le tout combiné fait qu'on arrive à une congestion du réseau électrique à très court terme.
Congestion. Ah ouais, mais donc attendez, que je comprenne bien,
C'est-à-dire qu'il y a trop...
Manuel, que je comprenne bien. Parce que je connais mon invité, et je sais que quand il parle là-dessus, il faut l'arrêter deux secondes. Vous êtes en train de me dire que le fait qu'on bascule de cette façon-là, avec trop d'éléments, va arriver à quelque chose qui finalement sera à l'inverse de l'objectif initial.
S'il n'y a pas de flexibilité, oui. Par exemple, pays comme les Pays-Bas sont déjà en congestion.
C'est-à-dire les Pays-Bas sont en congestion.
Les permis de construire peuvent durer de 3 à 5 ans parce que justement le réseau n'est pas adapté à accepter de nouvelles consommations.
Donc la conversion écologique, transition énergétique, n'est pas adaptée au volume en question.
Donc s'il n'y a pas cet outil de flexibilité. De ce fait, il faut adapter en temps réel la consommation à la production. Et on voit que la production est en train de varier. Hier, elle était fixe parce qu'on avait des centrales thermiques, des centrales nucléaires, des barrages. Et maintenant, on a du photovoltaïque et de l'éolien. Et là, c'est intermittent.
Ok. Bon,
donc, il faut jouer sur la flexibilité.
J'ai compris. Donc, je vous propose de prendre la chenille pour justement aller vers Laurent. Laurent, quand on parle de flexibilité énergétique, donc ça veut dire que vous avez un modèle, puisque vous avez créé une boîte pour ça. Comment vous fonctionnez ?
Donc, l'idée, c'est de repartir du bâtiment et de reconnaître que le bâtiment a ses propres usages qui sont flexibles. Donc, le bâtiment ne peut plus vivre isolé. Il doit être intégré dans le système électrique, puisqu'il y a Il y a des périodes où il y a trop d'énergie renouvelable intermittente, par exemple. Il y a des périodes où le réseau est plus capable de fournir suffisamment de puissance. Donc l'idée, c'est de créer une plateforme informatique qui gère les transactions de flexibilité entre le bâtiment et ses usages, notamment le véhicule électrique, avec la charge bidirectionnelle de véhicule électrique, et finalement les réseaux et les agrégateurs de services de flexibilité qui, eux, sont les traders qui sont à l'interface de cette flexibilité.
Ça veut dire que finalement, vous faites ce que fait EDF notamment, vous mettez des capteurs qui vous permettent en fait de moduler l'utilisation de l'énergie.
Alors,
j'ai bien compris.
C'est un petit peu plus sophistiqué que ça parce que quand...
Non mais sur le principe, vous gérez les flux énergétiques, c'est bien ça, les flux énergétiques, pour éviter les phénomènes de congestion.
Mais en évitant à l'opérateur du bâtiment de se retrouver coincé avec un seul fournisseur de flexibilité de choisir le meilleur offreur de flexibilité dans le marché.
Et comment vous faites ? C'est-à-dire que vous avez créé une place de marché pour ça ?
Donc l'idée, c'est de créer une place de marché, absolument. C'est tout à fait ça. Entre finalement le bâtiment et ses usages et les différents offreurs de services de flexibilité.
Alors justement, vous n'êtes pas provider d'équipement ?
Non.
Et vous avez créé une solution, une interface qui permette finalement de mettre en relief les fournisseurs d'énergie.
Tout à fait. Donc d'un côté, l'interface, c'est le boss. ouais. ou dans le bâtiment résidentiel, on va dire, les BACS, les différents équipements du bâtiment.
Quand vous dites le BOS, vous parlez de Building Operating System.
Absolument.
Ah, d'accord.
Et donc ça, c'est dans le bâtiment tertiaire. Dans le bâtiment résidentiel, c'est les équipements directement. Et côté opérateurs de marché, sont les agrégateurs de flexibilité, ce sont les opérateurs de réseau qui vont être capables à terme d'envoyer des consignes d'activation de flexibilité en fonction de scénarios de surdisponibilité de renouvelables ou d'effacement si on est à la pointe en hiver comme en ce moment par exemple.
Et qui est votre client naturel ?
Notre client naturel, c'est l'opérateur du bâtiment, le gestionnaire du bâtiment. C'est lui qui va bénéficier de la flexibilité. Il va être flexible et il va être rémunéré pour ça.
Oui.
Et donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Radio Immo. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience parce que c'est une opportunité de rémunération pour les opérateurs
du bâtiment. Important.
Très important.
Et forcément, tous les PM sont concernés.
Exact.
Absolument. Ah oui, forcément. PM, A7.
A7.
Bien évidemment. Ouais. Du coup, je deviens extrêmement sympathique à vos yeux. Je comprends pourquoi.
On a un rendez-vous le 21 janvier avec ULI.
D'accord.
Pour réunir tous les asset managers qui sont au sein de ULI sur ce sujet de la flexibilité énergétique et leur montrer que ça devient un Absolument. Levier de valorisation de leurs biens immobiliers.
Et le soir, vous restez à Paris, rappelez-vous.
Oui.
D'accord. Vous savez pourquoi ?
Parce qu'on va fêter le...
Non, parce qu'on va dîner au restaurant et on va manger des coquillettes aux truffes.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Vous avez déjà réservé. Alors, mon cher Laurent, justement, on comprend bien les enjeux de la flexibilité, des enjeux informatiques. Est-ce que vous avez... Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est open bar. C'est même open bar. On peut même dire que c'est le Far West. Hein. On peut dire les choses comme ça. Nous avons des partenaires qui ont pignon sur rue. Hein. Je parle de la société ACT France, par exemple, qui est répandue un peu partout en Europe, qui a son siège d'ailleurs en Hollande. Hein. Je leur poserai d'ailleurs la question pour la congestion en Hollande, dans les Pays-Bas. Quand on voit comment les choses s'organisent, on se demande quelle place vont prendre les players, effectivement. Parce qu'on a l'impression, et c'est normal, que ce marché crée des appétences absolument féroces. Avec des méthodes qui ne sont pas toujours très, convenables hein, ou correctes. Donc cette éco-délinquance qui est en train de se développer, si, quand on est justement... Alors ce n'est pas une question piège, hein, mais quand on développe une place du marché, vous avez compris où je veux en venir, comment vous arrivez finalement à créer cette interface en évitant effectivement qu'il y ait ces parasites, quelque part, qui entachent et rendent un peu délétères les actions qui sont faites, notamment sur le financement des travaux, mais aussi... sur l'amélioration des coefficients d'utilisation de l'énergie.
Alors moi, pour moi, il faut trouver un équilibre de rémunération sur la chaîne de valeur. Il ne faut pas que ce soit un acteur énergéticien qui vienne, qui installe ses capteurs et qui rende le bâtiment complètement captif et qui, globalement, capte l'intégralité de la valeur de la flexibilité. Ça, c'est un modèle.
Et avec un utilisateur qui est ficelé.
Un utilisateur ficelé. Il ne faut pas non plus que ce soit un acteur qui amène de l'énergie renouvelable.
Ficelé, c'est-à-dire précisé.
C'est-à-dire que, clairement...
Ficelle de saucisson, mais pas les acteurs.
Non, mais quand je dis ficelé, c'est-à-dire que on va couper, par exemple, son chauffage à telle heure, parce qu'en fait, il y a un pic de consommation énergétique. Et si lui, il ne le voulait pas, bah, écoute, il n'aura pas le mot à dire. Donc, en fait, on est dans un modèle qui est descendant. Alors que pour répondre à ta question, il faut qu'on soit dans un modèle montant, c'est-à-dire on part de l'usager, et on va opérer des solutions de flexibilité au plus près de l'usager, des besoins des usagers. C'est essentiel. Et si on raisonne au niveau européen, si on n'agit pas dans cette manière-là, je peux te dire que demain, c'est forcément des gens qui seront dans la rue, parce qu'en fait, ça ne leur ira pas.
Pourquoi ? Pourquoi on ne sera pas ? Parce que l'infrastructure ne permettra pas d'absorber les flux.
Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu m'as coupé, mais l'enjeu, hein, pour qu'on comprenne, en France, aujourd'hui, c'est à peu près, on peut produire 70 gigawatts, et dans les 10 prochaines années, le besoin estimé à ce jour, sans intégrer peut-être la version, l'exponentielle de l'IA et des data centers, c'est déjà 55 gigawatts. 55 gigawatts en plus. On n'a pas le temps de construire autant de centrales nucléaires pour répondre à ces 155 gigawatts. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il va falloir opérer cette flexibilité urgemment, ou alors, effectivement, ça sera des coupures.
Que je comprenne bien, cette flexibilité, c'est la possibilité de pérenniser en fonction de l'utilisation de l'énergie, en attendant qu'avec la nouvelle norme énergétique, on construise suffisamment d'éléments structurants pour pouvoir absorber le flux.
Oui et parce non, que, c'est aussi que adapter la production en fait, des non, renouvelables.
Parce que ce que je suis en train de comprendre, que je comprenne bien, c'est qu'on adapte à la fois sur les comportements, les utilisations, là où il faut, comme il faut. C'est le cas d'EDF avec ses compteurs. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale là-dessus avec des trucs sur les capteurs qui permettent en fait de piloter avec son smartphone les pièces où il faut chauffer, à distance, etc. etc. C'est un peu ça, à l'échelle
c'est
de...
C'est un peu ça. C'est faire en sorte que cette interaction avec les capteurs soit synchronisée avec la tarification dynamique, avec les incitations économiques du monde de la flexibilité.
Attendez, quittez pas. Arnaud, ce que tu peux prendre, c'est notre ami qui s'engorge, je suis en direct. Voilà. Pardonnez-moi. Oui, justement, pour qu'on puisse bien comprendre, ces enjeux-là, aujourd'hui, touchent l'ensemble des bâtiments, d'accord, les premiers bâtiments. Dans l'idée de cette plateforme, est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer une plateforme qui permettrait d'avoir une interface, avec, par exemple, avec le logement résidentiel, qui est très consommateur d'énergie ? Possible ?
Absolument. C'est d'ailleurs de là qu'on est parti. Donc, c'est là où l'électrification a lieu à grande vitesse. C'est là où le véhicule électrique vient, la charge, etc., les pompes à chaleur. Et donc, pour moi, il faut qu'il y ait un déploiement en même temps, dans le cadre d'éco-quartiers, etc., sur le résidentiel et sur le tertiaire.
D'accord. Donc, mais si on devait cibler, par exemple, vous, Laurent, c'est qui vous...
Donc, c'est
property management, actif tertiaire, actif retail. Très consommateurs.
Ce sont des bâtiments très électrifiés. Donc, pompe à chaleur, clim, véhicules électriques.
Donc, structure logistique, par exemple.
Ouais.
Consommateurs d'énergie.
Et dans des zones.
Les data centers.
Data center,
c'est Royal au bar. Hein,
tout à fait.
Pour le coup.
Tout à fait.
Effectivement, en train de volume, c'est coton.
Ouais.
Est-ce que, donc, pour la pérennité de cette plateforme, donc, finalement, vous permettez aux opérateurs de choisir finalement des modèles qui leur permettent aussi d'optimiser donc leur flux d'énergie. Est-ce que ça a une incidence sur le caractère économique ?
Absolument. L'idée de la plateforme, c'est d'offrir des revenus supplémentaires aux opérateurs de ces bâtiments en lien avec la flexibilité disponible dans le bâtiment. Donc c'est là où je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel. On ne force pas, hein, on n'est pas dans un modèle communiste top-down. On essaye de modéliser l'appétence des usagers à piloter...
Pourquoi les communistes, ils font du top-down ? On ne l'avait jamais fait, celle-ci.
Parce que il se trouve que dans les pays comme la Chine, il y a des telles contraintes énergétiques que parfois on est obligé de couper sans poser la question.
Donc,
ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est de modéliser flexibilité des gens et d'être capable de les faire interagir avec le système énergétique.
Mais on comprend mieux, parce qu'effectivement, il y a quand même eu des cas où, d'ailleurs, on a risqué à plusieurs remises. Vous ne vous rappelez pas, il y a 2 ans, on a risqué le blackout, justement, avec les problématiques d'Ukraine.
Tout à fait.
Tout le monde avait prévu, d'ailleurs, un blackout, et ça s'est plutôt bien passé.
Oui.
Voilà, dernière question, justement, vous vouliez vous exprimer sur le sujet rapidement, Emmanuel.
Oui, à partir du moment où on est dans ce modèle bottom-up, l'enjeu de la gouvernance des données est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en compte les besoins des usagers si on n'a pas accès à leurs données. Leurs données de consommation, les données qui permettent d'anticiper leur consommation, les données de météo, etc. Et donc, c'est en ayant cette vraie gouvernance des données au plus proche des usages qu'on va pouvoir opérer, grâce à ces plateformes, une véritable flexibilité pour le bénéfice des usagers. Et c'est pourquoi à la Data Governance Alliance dont on avait parlé déjà l'année dernière, on va lancer en 2025 un data scoring qui va permettre d'évaluer le niveau de fiabilité et d'accessibilité des données des bâtiments. Et ce niveau de scoring va permettre de valoriser le bâtiment en fonction de son aptitude à opérer cette flexibilité énergétique.
Merci beaucoup. On voulait faire un petit focus rapide sur vos actions. Merci Emmanuel François, patron, chairman de Data Governance Alliance et également advisor sur Urban Practice. Merci Laurent Schmitt, patron de DCBEL. On dit Décibel ?
Décibel.
Décibel. Merci en tout cas.
On pourra en continuer.
Voilà, surtout, donnez-nous l'information, justement en temps réel. On s'en fera le relais, comme quoi finalement, il y a toujours des idées d'entrepreneuriat extrêmement innovantes. Dans quelques instants, on va recevoir Xangor Choukas, président du Property Management Europe pour BNP Paribas. Et ensuite, on se retrouvera en début d'après-midi. À tout de suite.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.